Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 23. Je reçois Lise, ingénieure de formation, qui a complètement changé de voie il y a 2 ans pour se lancer en tant que pizzaïola à vélo. Elle nous raconte comment elle fait de la pizza un instrument du lien social grâce à ses ateliers et de quelle manière elle source ses produits pour rester locale, de saison et responsable. Bonne écoute! Bonjour Lise!
Bonjour!
Alors aujourd'hui c'est une interview un peu exceptionnelle puisque c'est la première fois que je fais une interview en face à face. Merci beaucoup déjà de me recevoir chez toi.
Avec plaisir.
Pour te présenter en quelques mots, donc, tu as 33 ans, tu es diplômé de l'école d'ingénieur ESITC et pendant plusieurs années, tu as cumulé l'entrepreneuriat avec un travail d'ingénieur travaux chez Bouygues. Et puis il y a 2 ans, tu as décidé de te lancer à temps plein dans un nouveau projet, Pizza Vélo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet et le parcours ?
Sur Pizza Vélo et ma vie à côté, ma vie professionnelle à côté.
C'est ça.
Pizza Vélo, c'est une pizzeria ambulante et participative. Ambulante parce que je vais chez les gens en entreprise et participative parce que je vais proposer des ateliers et des événements chez eux pour que soit je leur fasse les pizzas et puis qu'ils puissent partager un bon moment et les savourer entre eux, soit c'est les participants qui vont faire leur propre pizza. Qu'ils aient 7 ans, 77, 107, 127, enfin j'en ai pas encore eu. Donc voilà, le but c'est vraiment de mettre la main à la pâte et puis de montrer aussi que la pizza, une pizza artisanale, c'est un produit qui peut être très sain et de qualité pourvu qu'on suive quelques méthodes de base, surtout au niveau de la pâte et au niveau de la disposition des garnitures et de la qualité des garnitures.
Ok, et comment t'es venue cette idée? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Par quel bout commencer, je sais pas. On va peut-être commencer par comment j'en suis arrivée aux pizzas. En 2015, j'ai participé à un stage de construction de four en terre paille au nord de Montpellier que j'ai adoré. En une journée, on a construit un four en terre paille et le lendemain, on a pu l'utiliser pour cuire du pain. Et du coup, j'avais envie de faire ça, de refaire ce four en terre paille. Là où j'habitais avant, en colocation, c'était une grande maison avec un terrain à la campagne et on avait la place de mettre un four en terre paille. Et aussi, on avait de l'argile à disposition. Donc, je me suis lancée à construire ce four. Pas du tout dans l'idée au départ de faire des pizzas après, c'était plus pour la construction du four en tant que tel que je trouvais ça super chouette. Du coup, je l'avais construit en mai 2015. Un système où tu crées un dôme en bois, tu mets tes différentes couches de terre sable, terre paille, paille en beaucoup, enfin, plus grande quantité que la terre, donc tu fais vraiment quelque chose qui fait 20-25 cm d'épaisseur. Et ensuite tu mets le feu à ton dôme en bois pour qu'il se consume et que ça puisse sécher le dôme, la voûte, assez rapidement pour pouvoir utiliser le four derrière. C'est le principe des fours nomades marocains. Et du coup, une fois qu'on avait fait ça, donc en mai, fin mai, il était tout à fait utilisable. Et j'ai appelé quelques copains en disant « Bon, ça vous dit de venir à la maison, qu'on fasse un peu de pain et puis peut-être des pizzas avec ce qu'on a. » Et du coup, on était 5 et on a passé un bon moment à faire du pain qui a cramé et des pizzas qui, elles, sont plutôt bien sorties. Parce qu'en fait, le four était beaucoup trop chaud, donc le pain, il a noirci direct. Mais en fait, les pizzas, elles aiment beaucoup les très hautes températures. Donc on a fait ça, c'était pas mauvais. Je dirais pas que c'était les pizzas les plus extraordinaires qu'on ait fait, mais c'était pas mauvais. Puis le fait de les faire soi-même et de les faire dans ce four, leur donner un petit goût de bonheur. Et du coup, comme on était tous les 5 satisfaits, on s'est dit « bah tiens, on va refaire ça la semaine prochaine ». Et après on était 10, et puis la semaine d'après on était 20, et puis petit à petit ça a grossi jusqu'à ce qu'en fait maintenant j'ai quitté cette colocation où j'habitais, mais tous les ans sauf année Covid on fait un festival où un des thèmes du festival c'est de venir faire sa pizza, et on fait un atelier, et l'année dernière il y avait une centaine de personnes qui ont fait leur pizza, et j'animais l'atelier, et ils passaient les uns à la suite des autres pour faire leur pizza et la cuire dans le four en terre paille.
Et alors, comment t'es venue un peu cette idée de te lancer dans les fours en terre paille, la pizza? C'était quoi ton métier à l'époque? Ça a été une volonté de te réorienter?
En fait, moi, j'ai toujours aimé mettre la main à la pâte, que ce soit version bâtiment, que ce soit version pizza.
Okay.
Parce qu'en fait, alors je fais pas des pizzas au ciment, hein, mais faire de la pâte à pizza, il y a le côté pétrir, il y a le côté façonner. Et au départ, quand j'ai commencé dans le bâtiment, je travaillais sur des chantiers de rénovation de patrimoine rural. Et on faisait des enduits à la chaux, on faisait beaucoup de choses en terre. On faisait, voilà, il fallait déterrer des remparts, les reconstruire, trier les pierres, etc. Donc c'était toujours utiliser ses mains, mais en même temps utiliser sa tête aussi pour travailler intelligemment, optimiser, savoir quelles pierres on allait mettre, et puis voir la chose se bâtir. Et je pense que c'est ça que j'aime et qui relie un peu le côté bâtiment que j'ai et le côté pizza, c'est concrétiser quelque chose assez rapidement, si je puis dire. Donc voir un mur de rempart se reconstruire en une semaine quand on est 20 volontaires à travailler dessus, ou créer cette pizza où on va faire la pâte et puis ensuite la garnir à l'envi, la cuire et la partager. Donc je pense que les deux se relient par ce côté-là. Et ensuite, les pizzas, ça m'a vraiment plu à la coloc quand on faisait ces soirées-là. Et quand j'ai dû quitter cette coloc, un petit peu contrainte pour différentes raisons, j'étais hyper triste de laisser non seulement derrière moi quelques colocs, mais aussi ce fameux four en terre paille que je ne pouvais pas emmener avec moi. Et du coup, là, j'ai acheté un four en fonte pour continuer à faire les pizzas, continuer à inviter des amis là où j'habitais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à faire des recherches sur comment améliorer sa pâte, comment mettre les garnitures, des choses à inventer. Et en fait, assez naturellement, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie.
D'accord. Si je reviens un petit peu en arrière maintenant, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'était ton métier, enfin, un petit peu après tes études, dans quoi tu t'es lancé, et puis pour en arriver à aujourd'hui un petit peu, et enfin, qu'est-ce qui a changé, pourquoi tu t'es lancé dans cette expérience, j'allais dire, dans l'entrepreneuriat?
Quand j'étais ingénieur travaux?
Ouais.
Ok. En fait, j'étais diplômée en 2011, donc de l'ESITC Cachan, où c'est une école où on apprend vraiment à être conducteur, conductrice de travaux, donc à gérer un chantier, gérer un projet de chantier, grosso modo des études jusqu'à la livraison. Après, on se spécialise plus ou moins si on préfère faire des études de conception, économiste de la construction ou gestion de chantier. Donc moi, avant même de finir mes études, en fait, il y a Bouygues qui est venu me chercher, me proposer ce poste à Toulouse pour faire ce qu'on appelle de la maîtrise d'œuvre exécution, donc c'était la gestion de chantier, okay. Pour la construction de logements collectifs. Donc pendant 3 ans, j'étais chez Bouygues et il fallait vraiment coordonner tous les artisans sur les chantiers, donc les différentes entreprises, tout en faisant attention à l'aspect sécurité et à l'aspect financier, donc gérer planning, sécurité, financier, qualité aussi de la construction, enfin supposée qualité de la construction. Et c'était sur des chantiers qui en gros duraient entre 18 mois et 2 ans. Donc c'était géré du géomètre qui faisait implanter au peintre qui venait faire la finition. Et donc j'ai fait différents chantiers sur Toulouse, pas mal de logements collectifs, une vélostation à côté de la gare Matabiau, et ensuite j'ai basculé vraiment conductrice de travaux dans une autre entité de Bouygues, où là je travaillais sur le chantier de rénovation du campus de l'ISAE, donc c'est anciennement Supaéro à Toulouse. Ça c'était en 2014, et je faisais des journées de dingue. Il fallait arriver très tôt sur le chantier, 6h, 6h30, et on partait souvent assez tard. Et j'avais une pression sur les chiffres énorme. Il fallait me rendre toutes les semaines un tableau Excel qui montrait que, en gros, le chantier était toujours dans le vert. Donc, il fallait presser au niveau des prix les sous-traitants. Il fallait même presser au niveau de la sécurité. Donc, c'était toujours le conflit que j'avais en interne. C'était jusqu'où on va pour presser les prix tout en restant, tout en ayant un chantier qui aille à terme sans qu'il y ait de blessés, voire de morts. Moi, j'avais une trouille énorme qu'un jour, quelqu'un chute du toit du fait de la sécurité, qu'on ait trop économisé sur la sécurité. Même si l'entreprise pour laquelle je travaillais mettait ça énormément en avant, en fait, en officieux, il y avait des fois certaines choses qui, pour moi, n'étaient pas correctes, on va dire, d'un point de vue sécurité.
Ok.
Donc, j'ai vraiment fait ce métier-là pendant 3 ans, de conductrice de travaux. Et ensuite, comme j'étais fatiguée de ça et j'avais plus la sensation de faire un métier qui avait du sens, parce qu'à la base, je venais dans l'ingénieur, enfin, dans l'ingénieur, dans le côté ingénieur bâtiment, pour vraiment faire quelque chose de concret.
D'accord.
Et je voyais plus le côté concret des choses, je voyais que l'aspect sécurité, finance. Donc j'ai décidé de changer de métier, mais toujours en restant dans le bâtiment. Et c'est là où j'ai trouvé une annonce d'une PME qui est à Bordeaux et qui travaille dans l'acoustique des bâtiments, tout ce qui est traitement de la résonance. Et ils cherchaient un chargé d'affaires sur la région Midi-Pyrénées, plus quelques autres départements autour. Donc c'était technico-commercial, donc savoir gérer les chantiers de mise en œuvre des produits acoustiques que l'entreprise fabrique à côté de Bordeaux et répondre aux demandes des clients. Bonjour, mon studio d'enregistrement a besoin d'être traité au niveau de la résonance. Bonjour, dans le bureau, les gens se plaignent du bruit. Ou les particuliers, bonjour, j'entends le voisin du dessus qui cuisine. Et donc, c'est comment répondre à toutes ces personnes-là. Et surtout, j'ai appris à ce que c'était que le commercial, ce que c'était que vendre, et que c'est pas le commercial avec son sourire Colgate et ses chaussures brillantes, mais que c'est vraiment répondre aux besoins des gens et savoir aussi leur dire non, c'est pas le produit que moi je vends qui est correct. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là en tant que salarié pendant 5 ans et je me suis éclatée, vraiment éclatée. Mais au bout d'un moment, il y a une redondance des clients, il y a une redondance des journées. Donc je commençais un petit peu à me dire bon, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pour les prochaines années de ma vie.
Ok, et donc à ce moment-là, hein, qu'est-ce que tu t'es dit, vers quoi tu as voulu t'orienter, quelle a été un peu ta réflexion?
Au début, j'ai demandé en interne dans l'entreprise, est-ce qu'il y avait d'autres postes de disponibles pour pouvoir évoluer, parce que j'aime apprendre, j'aime faire des nouvelles choses. Et en fait, leur réponse était assez naturelle. Ils disaient, bah, nous, on est une PME, donc on peut te proposer un poste sur Paris, mais en gros, c'est faire la même chose, mais à plus grande échelle. Ou éventuellement, travailler au bureau d'études à Bordeaux, mais moi, j'aime Toulouse et j'avais envie de rester sur Toulouse, et c'était pas possible de faire du télétravail ou d'y aller que quelques fois par semaine. Donc ils m'ont dit, malheureusement, on n'a pas grand-chose à te proposer. Et moi, je me disais, bon, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de... vers quoi j'ai envie d'aller. J'étais un petit peu perdue et j'ai ce côté de... Avec le travail que j'avais de technico-commercial sur la région, j'ai découvert des endroits de la région somptueux, parce que Midi-Pyrénées, qui ensuite est devenue Occitanie avec le Languedoc, regorge d'endroits merveilleux, que ce soit la montagne, la mer, dans le Lot, l'Aveyron, le Gers... On y mange super bien, il y a des super beaux villages, et je rencontrais des clients adorables. Et je me suis dit, ben moi j'aimerais bien faire découvrir la région. Et comme je suis franco-canadienne, mon père est canadien anglophone, je me suis dit, tiens, je pourrais devenir guide conférencière pour les touristes anglophones qui viennent sur la région. Parce que j'avais envie de faire ce côté accueil, animation... Et j'ai commencé à regarder ça, mais il fallait reprendre les études pendant 3 ans pour avoir une carte de guide qui n'est pas obligatoire, mais qui est préférable. J'avais commencé à demander, enfin à poser des questions à différents guides sur la région. Et je me suis dit, ça va être compliqué, c'est pas forcément simple au niveau logistique. Et en plus, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? Et au bout de quelques mois, je me suis dit, non. C'est quelque chose que j'aime, l'accueil, parler anglais, faire découvrir la région. Mais je sais pas, il manquait quelque chose. Et c'est là où j'ai continué à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce que j'aime faire, en fait, naturellement. Et un soir d'été, en 2018, pour la énième fois, je disais à mes amis, oh, bah, venez, on va faire des pizzas, comme d'hab, je fais la pâte et puis vous amenez les garnitures. Et j'ai une amie qui me dit bah, est-ce que je peux venir avec mes deux garçons? Je lui dis bah, bien sûr, qui avait peut-être 6 et 8 ans à l'époque. Et on a passé une super soirée. Les petits, ils se sont amusés comme des fous. Ils adoraient, ils ont fait je sais pas combien de pizzas et je voyais qu'ils s'amusaient, ils ne voulaient plus repartir. Et je me suis dit, bah, ça c'est chouette, c'était un sentiment que je trouvais chouette. Et peut-être une semaine plus tard, je refais une soirée pizza encore avec d'autres amis. Et je dis à un copain, je dis, ah, moi j'aimerais peut-être faire quelque chose de ces pizzas là. Puis il me dit, bah, de toute façon elles sont tellement bonnes, tu devrais les mettre dans la rue, je suis sûre qu'il y a des gens qui les aimeraient. Et puis la soirée se passe, et puis au moment d'aller dormir, je me dis, bah oui, je vais peut-être faire ça. Et ça, c'était en juillet 2018.
Ok.
Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, j'aime ça, j'aime le côté accueillir les gens pour en faire. Et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas essayer de faire tout ce que j'aime en fait. Faire des choses de mes mains, donc faire la pâte, animer, proposer des ateliers. Mais aussi vendre et faire ça autour de la pizza de qualité. Et je me suis dit, bah, j'aime aussi le vélo et j'avais envie de proposer autre chose que le énième camion à pizza, Luigi, pizzaïolo moustachu, très sympa, mais voilà le truc qu'on voit partout sur les marchés. Je me suis dit, bah, je vais faire ça à vélo. Et j'ai tapé sur Google bah, pizzeria à vélo. Et en fait, j'ai rien trouvé en France. J'en ai trouvé un en Angleterre, près de Bristol.
Ok.
Il avait son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et il m'a dit, bah le mieux, c'est que tu viennes 5 jours pour qu'on en discute. Je lui ai dit, bah ok, c'était au mois d'août. J'ai pris mon billet d'avion et j'y suis allé. Et là, on a passé 5 jours à discuter de pizza, d'entreprise, de logistique, comment gérer les clients. Lui, il travaillait tout seul. C'était quelqu'un de super épanoui. Il était ravi de faire ses pizzas et de les vendre. Et il avait un petit four portatif d'une vingtaine de kilos. Et il m'a dit, ça, c'est le four parfait pour faire du transport et aller chez les gens pour proposer des pizzas. Je suis rentré en France, j'ai acheté ce four. Et une semaine après, j'ai fait mon premier marché qui m'a permis de, en fait, rembourser l'investissement que j'avais fait au niveau du four. Donc en un marché, j'ai pu rentabiliser le four. Enfin, rentabiliser. J'ai pu le rembourser. Et je me suis dit, ben, si ça a marché là, ça pourra aussi marcher demain. Et puis je me suis dit, bon, ben, je vais continuer.
D'accord. Et au niveau de la démarche, c'est vrai que tu me disais aussi, il y a quand même un côté vouloir créer un peu de convivialité, de solidarité au niveau des ateliers pizza. C'est aussi un moyen d'associer un concept très cool, la pizza, avec aussi une démarche un peu écologique, le fait d'être à vélo. C'est comment est-ce que ça s'est né chez toi? Il y avait une conscience particulière? Tu voulais aussi créer quelque chose enfin, qui permettait de rapprocher les gens?
Oui, j'avais vraiment envie de ça. Et je me disais, ça va passer par le côté atelier, déjà, de proposer des ateliers où les gens vont faire chacun leur propre pizza. Parce que souvent, je voyais qu'on soit enfant ou adulte, on est souvent super fier de la pizza qu'on va créer. Et c'est marrant parce qu'on voit souvent les traits de personnalité des gens à travers la pizza qu'ils créent, ceux qui vont aller faire des rosaces avec du jambon, ceux qui vont mettre plein de couleurs dessus, ceux qui mettent pas grand-chose. Ceux qui viennent de plein de pays différents dans le monde, qui ont vu plein de pays et qui vont aller chercher des épices, des légumes, des choses, des mariages de goût et de couleur. Donc déjà, à travers ça, je me disais, il y a des échanges qui peuvent se créer. Moi, j'ai des amis qui, eux, ne se connaissaient pas forcément sur une soirée et qui, à la fin de la soirée, se mettaient à débattre sur pour ou contre le persil sur la pizza ou la fameuse question de l'ananas. Enfin, voilà. Et ça crée des discussions sans que ce soit des discussions non plus trop sujettes à débat, j'allais dire à débat qui peuvent être à la fois passionnants mais des fois un petit peu hostiles ou compliqués. Voilà, on parle de nourriture, on peut parler d'agriculture, de nature, et ça rapproche vraiment les gens sur un plat qui est très populaire parce que aujourd'hui, enfin, qui ne connaît pas la pizza sur Terre, très peu de gens, et c'est souvent un plat qui instinctivement plaît aux gens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez fort et qui me parlait beaucoup. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à partir de ce plat simple, on peut vraiment y transmettre les valeurs qu'on a. Par exemple, ce que j'apprécie, c'est aller à la rencontre des producteurs locaux, aller voir comment ils travaillent et découvrir des nouvelles saveurs. Donc, je travaille par exemple avec Amandine, une maraîchère à Aigrefeuille, pas loin de Toulouse. Et cette fille, c'est une bible de plantes aromatiques. Elle connaît très bien son métier, elle l'adore et elle me fait toujours découvrir de nouvelles choses à chaque fois que j'y vais. Et c'est elle qui m'a fait découvrir la tagette que je mets sur ma choco-dessert, par exemple, qui est une petite plante aromatique un peu acidulée, qui donne un goût merveilleux avec le chocolat et le coulis de framboise. On pourra le goûter à l'occasion. Donc voilà, c'est à la fois sur les produits et sur la manière de travailler et sur aussi la manière de se déplacer qui me permet d'avoir cette conscience de la problématique environnementale. Je dis pas que je fais les choses parfaitement parce que bah, y a aussi à prendre en compte des contraintes économiques, des contraintes commerciales, des contraintes sur logistique aussi, puisque bah, au début je faisais ça à vélo et j'ai vite vu que j'étais très météo-dépendante, que j'étais très dépendante de la circulation, que les clients sont pas forcément prêts à payer les 2 heures en plus où je vais pédaler pour aller jusque chez eux. Donc bah, il y a des réflexions à avoir autour de ça. Et puis aussi aller au-delà un petit peu des idées reçues. Je sais pas moi, le carton à pizza, l'emballage, c'est hyper polluant. En fait, on est en pleine étude d'impact environnementaux avec une amie. Et on se rend compte, ok, c'est polluant. Est-ce que par rapport à l'envoi d'un mail ou à la publication de quelque chose sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui génère le plus de pollution? Est-ce qu'il y a de la pollution cachée? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit, qu'on ne voit pas? Et c'est toujours avoir cette chose-là à l'esprit, de se dire, ok, dans tout ce que je fais, quels sont les impacts? Et bah, c'est important d'avoir, par exemple, des produits de saison, hein, du basilic de saison, mais quel est le poids de ce basilic aussi par rapport à la farine qu'on utilise dans chaque pâte et en grande quantité dans une pizza? Bah voilà, j'ai peut-être plus intérêt à travailler d'abord sur aller chercher une farine locale, bio, plutôt que de travailler sur le basilic qui vient d'à côté. Enfin, c'est un exemple un peu caricatural parce que c'est très simple de trouver du basilic chez Amandine, ma super maraîchère. Mais voilà, c'est aussi comment mettre des priorités sur son entreprise pour diminuer les impacts environnementaux. Et ça ne se fait pas en un jour. C'est un long cheminement d'avoir son activité et d'essayer de limiter ses impacts.
Et alors si j'en viens un peu toi ton parcours on va dire personnel, au moment où tu t'es dit je lance Pizza Vélo, tu as quand même lâché un emploi. Enfin, comment est-ce que tu t'es senti? T'as pas eu peur? Enfin, autour de toi, ton entourage, enfin, qu'est-ce que les gens t'ont dit? Est-ce que, bon, au départ, enfin, effectivement, tu es ingénieur en travaux. Faire des pizzas, enfin, quel était un peu peut-être le regard des autres? Comment tu t'es aperçu?
Alors c'est vrai que quitter un CDI où on gagne grosso modo 2000 euros par mois, qu'on a une voiture de fonction, plein d'avantages à être salarié, ça peut paraître un peu fou. Certains m'ont dit mais t'es complètement folle, t'as un job de rêve, pourquoi tu vas faire ça? En même temps, j'ai envie de vivre sans regret et je me suis dit ben... J'ai envie de le tester, j'ai envie de le faire, et si ça fonctionne pas, j'ai un diplôme, je pourrais toujours retrouver un job si j'ai besoin d'argent parce que Pizza Vélo ne fonctionne pas. En même temps, je me suis rarement dit Pizza Vélo ne fonctionnera pas, parce que je suis plutôt du style à me dire bah, ça va fonctionner, et puis pour que ça fonctionne mieux, il faut que je mette ci et ça en place, faut que je délègue telle chose. Et j'avais pas vraiment envie de partir avec un a priori négatif en mode je quitte mon CDI pour une aventure entrepreneuriale et si ça marche pas, je ferai ça.
D'accord.
C'est pas quelque chose que je me suis dit très très souvent. Je me suis dit quelques fois quand on est en morale bas, parce que ben, on a plein de choses à penser tout le temps, tous les jours, et on n'est pas dans le même rythme que aussi la plupart de mes amis à l'époque étaient salariés dans tout type de job, hein, mais ils travaillaient souvent du lundi au vendredi, de 8h à 18h, et quand on a un agenda différent et quand on n'est pas à leur dire bah ouais moi je suis dans les bouchons tous les matins, enfin quand on leur dit plus ça, il y en a certains c'est ah bah oui tu fais rien de tes journées alors. Ah oui toi tu fais tes pizzas, un peu le clown qui fait les pizzas quoi. Donc ça oui il y avait un fond de peur, mais on a aussi cette, j'allais dire cette chance en France qu'on est, on est souvent, on peut trouver des accompagnements pour monter son entreprise. Quand on sollicite des aides, que ce soit des aides financières ou des accompagnements, en allant à la Chambre des métiers, moi j'ai été très bien reçue à la Chambre des métiers, j'ai obtenu une rupture conventionnelle pour pouvoir vivre cette aventure-là. Donc j'avais aussi un suivi via Pôle emploi où je leur ai vraiment exposé mon projet, et ça a permis aussi de financer le démarrage de Pizza Vélo, de transformer les indemnités Pôle emploi en capital pour l'entreprise. Donc tout ça déjà, ça donne aussi un tremplin pour l'activité. Et ensuite au niveau de mon entourage, donc c'est vrai que dans l'entourage amical, certains étaient un petit peu sceptiques. D'autres avaient déjà, d'autres je les connaissais déjà de ma précédente aventure entrepreneuriale que j'ai eue pendant 3 ans entre 2012 et 2015, où avec une amie on avait monté une sandwicherie où j'avais fait énormément d'erreurs, mais des erreurs constructives. Donc mon entourage n'était pas surpris que je vais me relancer dans une aventure entrepreneuriale. Et en fait me suivaient beaucoup plus quand je leur disais je veux faire de la bonne pizza, et que les gens apprennent à faire de la bonne pizza, plutôt que quand je leur disais bah voilà je rachète une sandwicherie où on va vendre des paninis et du pain décongelé, qui en fait n'était pas du tout mon kiff comme on pourrait dire, et qui n'était pas du tout en accord avec mes valeurs. Et c'est aussi pour ça qu'au bout de 3 ans le truc a pas fonctionné. Je faisais ça en parallèle de mon boulot d'ingé, enfin j'avais pas de vie pendant de 2012 à 2015. Là, je me suis dit, ok, je me lance et je fais tout pour que ça fonctionne. Ensuite, en fait, je devais quitter la PME, la fameuse PME où je faisais de l'acoustique. On s'était mis d'accord sur la rupture conventionnelle, ils ont été très réceptifs à ça. Je devais quitter ce job en janvier 2019, donc juste quelques semaines après la création de Pizza Vélo. Et au moment de partir, ils m'ont dit, mais tu te montes en indépendante, est-ce que ça te dirait de continuer pour nous en tant qu'indépendante sur un temps de travail réduit, c'est-à-dire qu'on optimise vraiment, tu ne fais que du technico-commercial, tu ne vas pas faire le reporting, tu ne vas pas faire ce qu'on appelle des réponses non qualifiées, donc c'est les gens qui appellent pour dire bah, j'entends le voisin du dessus, etc. Donc est-ce que ça te dirait de continuer pour nous? Et en fait, je me suis dit que oui, ça pouvait être super, parce que j'avais pas envie non plus, au fond de moi, de lâcher complètement mon côté bâtiment. Et donc, du coup, c'était une proposition plutôt rêvée, qui était de continuer à faire du bâtiment, j'allais dire au fil de l'eau, gérer les clients, gérer le réseau que j'avais déjà sur l'Occitanie, répondre aux personnes, où en fait, c'était du temps. Beaucoup plus réduit que par rapport à quand je commençais ce job-là, parce que je connaissais ce job. Ça me permettait d'assurer aussi un minimum de rentrée d'argent, et donc de faire grandir Pizza Vélo petit à petit sans avoir à avoir peur de manquer de financement à la base, et pouvoir me dire bah voilà, je peux prendre le temps d'apprendre à faire des très bonnes pizzas, prendre le temps de rencontrer des producteurs, prendre le temps de vraiment structurer l'entreprise. Donc c'était une proposition rêvée, mais ça s'est fait. Ils m'ont proposé ça 2 jours avant que je quitte le job en tant que salarié. Et du coup, c'est là où j'ai monté l'entreprise. Et puis, j'ai eu d'autres missions dans le bâtiment, d'autres entreprises qui m'ont dit, ah bah tiens, est-ce que tu pourrais nous étudier tel aménagement de bureau, etc. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir, pendant une année et demie, J'allais dire, dans mon quotidien, une entité bâtiment et une entité pizza.
Ok, et qui t'a permis vraiment d'avoir ce temps, un petit peu en te sentant pas forcément terrifié ou en ayant peur des financements, pour lancer tranquillement Pizza Vélo.
C'est ça, exactement. Et puis faire des tests pizza vélo, je voulais vraiment, contrairement à l'entreprise précédente, donc celle que j'ai eue de 2012 à 2015, où tout s'est fait très vite, où on est allé chercher un emprunt bancaire pour pouvoir financer tout le matériel, etc. Et ça s'est fait vraiment trop vite. Comme je voulais pas refaire les mêmes erreurs avec Pizza Vélo, je me suis dit, bon, Pizza Vélo, je vais y aller petit à petit, je vais faire des tests sur le terrain, sur ce que j'aime ou j'aime pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, dans le sens type de prestation, nombre de personnes, organisation. Et c'est là où j'ai vu que, par exemple, faire des marchés en plein vent, on est entouré de public, ça me plaisait pas parce qu'il faut à la fois gérer les fours qui sont à 450 degrés, on ne sait pas quelle quantité de personnes on va avoir, on est très météo-dépendant. Donc on a aussi, s'il pleut et qu'on a personne, bah on se retrouve avec une quantité de garniture sur les bras à pas savoir trop quoi en faire, parce que pour des questions d'hygiène, on peut pas tout réutiliser malheureusement. Donc c'était un format où je me suis dit, bon, ça me plaît pas plus que ça, donc je l'ai pas refait. Après, j'ai fait des anniversaires pour les enfants. C'était très sympa, mais avoir 12 enfants de 8 ans qui hurlent de joie à l'idée de faire une pizza, c'est hyper énergivore. Donc c'était sympa de le faire une fois de temps en temps, et je vais continuer à le faire une fois de temps en temps, mais ça peut pas être mon cœur d'activité parce que je n'aurai plus d'énergie à donner pour le reste. Donc pendant 2 ans, en fait, de septembre 2018 jusqu'à à peu près, oui, cette année, enfin non, pas 2 ans, je dirais 2018-2019, j'ai vraiment pris ce temps de faire des tests avant de me dire, ok, c'est ça qui me plaît et c'est vers ça que je vais aller. Et c'est là aussi où j'ai vu les limites de la remorque du vélo, parce que ça a été toute une histoire de concevoir cette remorque, la faire construire, l'utiliser, et se faire renverser par un bus. Et c'est là aussi où, voilà, donc je me suis dit, pour que mon entreprise soit viable, pour que moi je puisse continuer à avoir de l'énergie à animer des ateliers et à faire des événements, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me structurer? C'est là qu'est venue l'idée du Piaggio AP, qui est un triporteur italien, les petits camions italiens à 3 roues, sur lesquels je vais mettre mes fours. Ça me permet d'optimiser les déplacements, de réduire surtout le temps de déplacement, la dangerosité des déplacements, et je ne serai plus météo-dépendante. Et ça me permet aussi de faire des prestations où les entreprises vont m'appeler pour un déjeuner, pour un dîner, pour un team building, etc. Et on y va à la fois pour faire les pizzas, mais aussi tout l'univers images et graphiques autour qui est très sympa et qui me plaît, et à travers laquelle je peux aussi passer des messages, que ce soit sur le côté apprendre en s'amusant ou sur le côté aussi environnemental, voilà, produits locaux, de saison, etc.
Tu m'as devancé sur la question qui était celle des projets justement que tu avais bah, avec Pizza Vélo et même au niveau personnel. Donc c'est développer cette partie-là plus atelier en entreprise
Ouais.
pour sensibiliser autour bah, d'un truc qui est génial qui est la pizza.
C'est ça. C'est faire passer plusieurs messages. En fait, c'est mon but premier, c'est vraiment de créer des bons moments à partager. On y va, on pose les téléphones, on pose presque son cerveau, même si l'enfant un petit peu pour étaler la pâte et puis choisir les garnitures, mais on pose ses soucis et on se concentre à faire, voilà, mettre la main à la pâte, étaler cette pâte. Mettre la garniture, comment est-ce qu'on veut la mettre, qu'est-ce qu'on a envie de mettre, qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Cuire cette pizza, donc il y a le rapport aussi avec le feu, parce qu'on voit la flamme dans les fours. Il y a ce plaisir de la voir cuire. Et ensuite, il y a le plaisir aussi de la partager et de la déguster, que ce soit avec ses collègues de travail ou en famille ou entre amis, parce que je ne vais pas me tourner uniquement vers les entreprises. Et ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et sur lequel j'ai envie de travailler, et de plus en plus travailler autour du apprendre en s'amusant, donc faire quelque chose de ludique, et puis créer des petits livrets sur le pâton. Donc c'est le pâton, c'est la pâte à pizza qui va devenir pizza. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pâton? Comment respecter ce pâton? Quelle est la farine? Comment choisir une farine Pourquoi est-ce que certains travaillent à la levure, d'autres au levain? Quel type de sel mettre dedans? Je vais aller visiter un marais là, à côté de Narbonne, jeudi, pour un petit peu découvrir cet univers-là. Et c'est à travers ça aussi, moi ça me motive à aller chercher des producteurs et à aller les découvrir, à aller aussi faire leurs portraits. Enfin voilà, on va faire des portraits pides pour qu'ils puissent eux dire qu'est-ce qu'ils mettraient sur une pizza, comment, pourquoi ils ont choisi ce métier-là. Enfin voilà, aussi tout cet aspect-là. J'ai pas envie d'être juste uniquement pizzaiola à faire des pizzas au kilomètre, c'est pas du tout le cœur de l'activité. Même si je respecte énormément les pizzaiolos, pizzaiolas qui font ça. Moi je préfère en faire moins en quantité, mais développer l'aspect univers de la pizza.
D'accord. Et alors, autre question maintenant, si tu pouvais revenir dans le passé, sauter dans la DeLorean et revenir au moment de l'école d'ingénieur, donc au moment de ton diplôme, et que tu pouvais te parler, t'adresser un message ou des conseils, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire ?
Fais ce que tu as vraiment envie de faire dans le fond. Ne pas se mettre de barrière du fait de tout ce qu'on a entendu autour de soi pendant sa scolarité. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Enfin, quand je leur ai dit, voilà, j'ai trouvé un stage de conduite de travaux à Madagascar, ils m'ont dit, bah vas-y, fonce. Quand je leur ai dit, ah bah j'ai peut-être ce stage ouvrier dans une usine au Vietnam qui fait les fèves pour les galettes des rois, je voudrais y aller pendant un mois pour mon stage ouvrier. Ils m'ont dit, mais vas-y, fonce. Du coup, j'ai pas eu cette... j'allais dire ce truc des fois que certaines personnes ont, où bah voilà, leurs parents leur ont dit, non mais attention, fais pas ci, fais pas ça. J'ai plutôt des parents qui sont du style, vas-y, essaye, c'est pas grave, si tu te plantes, t'apprendras forcément quelque chose. Ça, c'est peut-être la culture plus nord-américaine, canadienne, qui vient de là. Je suis née aux États-Unis et j'ai la moitié de ma famille qui est canadienne de l'Alberta, où l'erreur est vraiment pas un problème. Donc, je dirais, c'est plus moi, ma scolarité française qui a été plus compliquée, dans le sens où, en fait, je m'ennuyais pas mal à l'école, mais j'avais pas de mauvais résultats, donc on m'a toujours dit, bah vas-y, continue. Et en fait, dans le fond, je m'étais jamais vraiment laissé la liberté de dire ce que j'avais vraiment envie de faire, dans le fond, et du coup, de comment le faire. Donc, en soi, l'école d'ingénieur, ça a été super. Enfin, je suis très contente d'avoir fait une école d'ingé, d'avoir un diplôme d'ingénieur, d'avoir travaillé dans l'univers des travaux. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. Mais effectivement, si je pouvais dire quelque chose à moi-même en 2011, ce serait... Et dans le fond, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Est-ce que tu aimes profondément faire?
D'accord. Et alors, dernière question, pour clôturer cette rencontre. Est-ce que tu as des recommandations de lecture ou de vidéos, documentaires alors que ce soit sur l'univers de la pizza, mais ça peut être sur plein d'autres choses, hein. Ça peut être sur le bâtiment, ça peut être sur la production locale, enfin vraiment ce que tu veux, qui toi t'ont inspiré et t'ont permis de, je sais pas, justement peut-être de sauter le pas ou...
Alors, c'est une bonne colle parce que j'aime beaucoup lire et je pourrais citer des dizaines de livres qui m'ont inspiré. En fait, plus que des livres et des vidéos, j'aurais envie d'inciter les personnes à voyager, mais dans le sens voyager de l'intérieur. Un voyage, il n'y a pas forcément besoin de le faire jusqu'au bout du monde, ça peut être au coin de la rue, pour rencontrer des gens. J'ai pas mal voyagé dans mes années vingtaine, on va dire, où j'ai fait des stages à l'étranger, des volontariats. J'ai, par exemple, je suis allée dans une école en Ouganda pendant un mois, où l'idée c'était que bah, je vienne avec des idées d'activité et puis aussi que les enfants de cette école me proposent des activités à faire pour que je puisse découvrir leur quotidien. Et j'étais dans ce village qui en soi n'avait rien d'extraordinaire niveau paysage ou quoi, mais en fait j'ai découvert la vie des gens et j'ai découvert à quel point ils avaient une vie à la fois simple et chouette. Et ça remet aussi en question tout ce, enfin, notre modèle de société occidentale. Donc je dirais, lisez des livres, mais aussi trouver des voyages intéressants à faire. Pas forcément en distance, mais en expérience.
Lise, merci beaucoup pour ton temps et pour cette interview. Et bah, je te dis à très bientôt.
Merci à toi.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !